Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Pourquoi le renouveau actuel de l'intérêt pour l'anarchisme? Voici deux émissions sur ce sujet, aujourd'hui vendredi puis lundi. Ce matin, l'anarchisme a-t-il été pionnier dans la lutte pour un meilleur traitement des femmes, des noirs et aussi de la nature? L'anarchisme est une vaste famille vers laquelle on peut se tourner pour des raisons diverses. Souvent, au XXe siècle, on s'intéressait à certains anarchistes et libertaires pour une critique de l'Union soviétique qui ne soit pas de droite, mais qui soit une critique radicale quand même. Par exemple, ne l'oublions pas, c'est une écrivaine russe libertaire, Ida Met, plus tard exilée en France, qui a livré le récit et l'analyse du massacre des marins de Kronstadt en 1921. En Russie, épisode où le léninisme a montré l'évidence de son virage autoritaire avant même le stalinisme. Cet écrit d'Ida Met a paru dans les fameux cahiers Spartacus en 1948, et plus récemment, il y en a eu quelques extraits dans la revue Prisme en 2018. Il y a une autre anarchiste célèbre qui n'a jamais oublié Kronstadt, c'est Emma Goldman, qui d'ailleurs n'a eu de cesse de rappeler au plus fameux des anti-staliniens, Trotsky, qu'il avait participé à l'écrasement de cette révolte en 1921. Bref, l'anarchisme a beaucoup aidé la gauche critique de l'URSS, mais aujourd'hui, il y a d'autres combats. La poursuite de l'émancipation des femmes, la mémoire des souffrances de l'esclavage, de la traite des Noirs et le souci de comprendre ce qu'il en reste dans les consciences, ou encore la lutte pour soustraire la nature à la domination humaine. Or, indéniablement, la famille anarchiste a été sensible à tous ces enjeux, souvent avec une remarquable précocité. C'est peut-être une raison de l'attirance qu'elle suscite en ce moment. Nous allons en discuter. Bonjour Irène Pereira.
Bonjour.
Vous êtes philosophe de formation, vous êtes aussi sociologue et désormais professeur à l'Université de Rouen. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'anarchisme, notamment « L'anarchisme dans les textes » paru en 2011 aux éditions actuelles. Et vous vous apprêtez à publier aux éditions du Cavalier Bleu un livre intitulé « Le féminisme libertaire, des apports pour une société radicalement féministe ». Bonjour Léa Gauthier.
Bonjour.
Philosophe de formation, vous aussi, enseignante à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, vous écrivez, vous éditez des ouvrages et vous avez notamment dirigé en 2014 chez Payot la publication de certains écrits d'Emma Goldman. Et puis cette année, on vous doit l'édition de textes de l'anarchiste américaine Lucy Parsons, toujours chez Payot, sous le titre « Travailler dans ces conditions, jamais, sur le capitalisme, les femmes et l'anarchisme ». Enfin, bonjour Tacred Ramonet. Vous êtes auteur et réalisateur de documentaires, fondateur de la société de production Temps Noir. En 2016, vous avez réalisé avec Temps Noir et la chaîne Arte une série documentaire intitulée « Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme ». Et justement, je vous propose de commencer notre réflexion de ce matin par l'écoute d'un extrait de votre documentaire Tancred Ramonet.
When the movement matures, you find that they are trade unions.
Au fur et à mesure de l'implantation des syndicats anarchistes, ceux-ci se dotaient toujours de sections féminines. Ce ne sont pas des ghettos, car ces sections féminines étaient vraiment aux avant-postes de la Révolution. Et je crois que c'est important de comprendre ça, car les femmes jouaient alors un rôle de pionnier. Et ces sections féminines devenaient aussitôt, en quelque sorte, des avant-gardes révolutionnaires.
Esclaves entre tous les prolétaires, ce sont effectivement des femmes qui mènent ces luttes syndicales et ouvrent pour l'anarchisme de nouveaux fronts. Le mouvement libertaire devient ainsi, en ce temps où les femmes n'ont pas le droit de vote, ni celui d'avoir un compte en banque, le seul mouvement révolutionnaire à avoir des figures féminines de premier plan. On se souvient de Louise Michel, la communarde réprouvée devenue héroïne populaire, et d'Emma Goldman, l'émigrée russe surnommée la femme la plus dangereuse d'Amérique. Mais il y a encore Volterine de Clare, dont le talent littéraire n'aura d'égal que le foisonnement de la pensée, Leda Raffanelli, la militante convertie à l'islam et figure marquante de l'anticolonialisme au Proche-Orient, ou Virginia Bolton, qui, avec le sous-titre « Ni Dieu, ni maître, ni mari », publie le premier journal féministe de l'histoire. Sans oublier Lucy Parsons, dont l'époux accusé à High Market avait été l'un des saintes martyrs de Chicago et qui, née esclave, deviendra l'une des premières militantes de la cause noire. Connues et reconnues, ces femmes qui remplissent des salles sur leur seul nom sont admirées par les sympathisants anarchistes et craintes par les pouvoirs établis, qui n'hésitent pas à les enfermer, à les déporter et même à les exécuter, comme ce fut le cas de Kanon Sugako, journaliste féministe et martyr japonaise, qui finira pendue au crépuscule du soir après avoir été accusée à tort de haute trahison.
Vraiment, Tancrède Ramonet, il y a eu plus de femmes dans les mouvements anarchistes que dans d'autres mouvements ouvriers?
Alors, il n'y a pas eu plus de femmes, mais c'est vrai qu'à l'origine du mouvement anarchiste, qui est surprenant, c'est que on a la présence de femmes au premier plan qui interviennent dans les conférences publiques, prennent la parole. Il faut savoir à l'époque que les conférences publiques permettaient de ramasser de l'argent pour aider les journaux, aider le mouvement ouvrier, aider les grèves. Et donc, c'était important d'avoir des orateurs qui allaient faire venir le public. Et ce qu'on voit, c'est que à la fin du 19e siècle, ce sont des femmes qu'on met au premier plan. Emma Goldman remplit des salles de 2000 personnes. Quand elle prend la parole, on vient la voir. Alors évidemment, parce qu'il y a une dimension sulfureuse, on parle d'elle comme la femme la plus dangereuse d'Amérique, mais aussi parce que c'est une formidable oratrice qui a décidé de se servir de la parole comme d'une arme et qui fait de la propagande anarchiste et explique très bien ce qu'est le problème des ouvriers, puisque d'abord, elles viennent toutes d'un monde ouvrier.
Alors ce qui est évidemment passionnant dans cette réflexion sur la présence des femmes dans les mouvements anarchistes, c'est que vous déterrez aussi des noms que le grand public ne connaît pas forcément. Emma Goldman est peut-être une des plus connues. Louise Michel aussi, qui a participé à la Commune de Paris, qui a été déportée après en Nouvelle-Calédonie avec sa mère, qui est morte bien plus tard, en 1905, à Marseille. Mais par exemple, une Lucy Parsons, je suis pas sûre que tout le monde sache qui c'est. Elle était une syndicaliste anarchiste américaine et fille d'une esclave noire, si j'ai bien compris, en 1853, libérée donc par l'abolition de l'esclavage en 1865, elle, à Chicago, avec l'appui de son mari Albert Parsons, elle a fondé l'Union des femmes ouvrières, puis l'Association internationale des travailleurs. Son mari sera condamné à mort après le rassemblement militant au High Market Square en 1886, un mouvement très important. Finalement, sa peine sera commuée certains auront une peine commuée en peine de prison, mais lui va vraiment être exécuté et elle fera vivre sa mémoire et celle d'autres camarades jusqu'à l'âge de 89 ans. Tancrède Ramonet, avec Lucy Parsons, on a une femme qui s'intéresse aux problèmes ouvriers, à la lutte des classes, mais aussi à la question des esclaves, à la cause noire américaine, mais aussi à la question féministe. Vous pensez que c'est l'anarchisme qui est la raison profonde, le moteur premier dans tous ces engagements?
Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est que l'anarchisme, c'est une pensée sans dogme, mais qui a un principe qui est la lutte contre toutes les formes de domination. Il n'y a pas une forme de domination, comme c'est le cas, par exemple, dans la pensée marxiste, avec cette idée que c'est la lutte des classes, l'exploitation sociale, qui serait, disons, le cœur du problème social, de la question sociale. Dans l'anarchisme, il faut lutter contre toutes les formes de domination. Et c'est ce qui fait que, par exemple, ces grandes théoriciennes, qui sont aussi de grandes activistes, militantes, arrivent à la fois, ont un point de vue sur, les grandes questions qu'on a l'habitude de se poser en termes politiques et sociaux, la grève, la question de l'exploitation économique, les conditions de vie des travailleurs, mais vont se poser aussi des questions, disons, plus spécifiques, qui en général sont délaissées par les grands théoriciens, qui sont les questions de l'intime, par exemple. Donc effectivement, la question de la sexualité, la question du mariage, des questions qui ne se posent pas ou qu'on ne formule pas encore en ces termes, de l'intersectionnalité, c'est-à-dire de la superposition des formes de domination et donc du racisme qui se mélange avec le sexisme et avec l'exploitation capitaliste, par exemple.
Léa Gauthier, vous venez d'éditer Lucy Parsons, un certain nombre de textes d'elle. Quelle est votre réponse? Vous pensez en effet que la cause anarchiste est, invite à une sensibilité à toutes les formes de domination et donc le cœur de ces engagements qui par ailleurs sont multiples?
Moi, je tiens d'abord à préciser une chose, c'est que oui, là, on exhume des figures femmes anarchistes, mais le courant anarchiste n'est pas à dominante féministe.
Oui, merci de le rappeler, oui. À dominante féminine, vous voulez dire, déjà, avant même de parler du féminisme.
Déjà, à dominante féminine et encore moins féministe, c'est-à-dire qu'elles ont dû lutter aussi, vraiment, au sein du mouvement pour arriver à imposer des pensées. Et c'est vrai, comme Rankin vient de le dire, dans la notion même d'anarchie, il y a cette volonté de lutte contre toutes les formes d'oppression et donc pour l'émancipation de tous les individus. Après, l'anarchie, c'est pas quelque chose d'uniforme, c'est vraiment protéiforme. Et là, si on ne cite que Emma Goldman, Lucy Parsons et Voltairine de Cleyre, on a trois appréhensions différentes de l'anarchie.
Oui.
Lucy Parsons met plus l'accent sur l'émancipation via la question économique. Emma Goldman est de tous les bords, mais la formation qu'elle a reçue en suivant les séminaires de Freud fait que la question du contrôle des naissances, de la liberté des corps, de l'avortement, de l'homosexualité, sont vraiment mises en avant.
Oui.
Et font vraiment la singularité de cette pensée, je crois aussi. Et quant à Voltairine de Cleyre, elle passe d'un individualisme anarchiste à un individualisme plus communautariste qui finira sans étiquette. Donc on a trois profils très très différents. Mais oui, pour répondre à votre question, effectivement, l'anarchie est ce qui permet de mettre en cause les choses et d'ouvrir une brèche pour la pensée féministe de manière hyper actuelle, en fait.
Et par exemple, juste pour rester un instant sur Lucy Parsons, quand elle dira en 1905 « Nous sommes les esclaves des esclaves et nous, c'est les ouvrières », c'est-à-dire c'est les femmes ouvrières qui sont les esclaves de ces esclaves, dit-elle, que sont les ouvriers. Seule une anarchiste aurait pu dire cela, ou bien, je sais pas, bon, il y a eu d'autres femmes éminentes, Flora Tristan, par exemple, plus tôt, qui était proche des thèses de Fourier, qui était dans le socialisme une figure très intéressante, née en 1803, morte en 1844. Elle-même a connu la violence conjugale. Son mari était terriblement violent. On lui doit la formule « La première fois prolétaire de tous les pays, unissez-vous ». C'est quoi la différence entre une Flora Tristan socialiste et une Lucy Parsons ou une Emma Goldman anarchiste?
Il y a l'ici et maintenant de la lutte sans programmatique. C'est-à-dire que l'anarchie est une émancipation de tous, de chacun, mais pas avec une vision téléologique, c'est-à-dire une finalité posée.
Oui.
Et dès lors, il y a une énergie réquisitionnée sur le moment et tout le temps. Tancred parlait de l'hyper-importance de leur discours, de leur prise de parole en public. Elles sont vraiment sur tous les fronts, sur tous les piliers de grève, etc. Et les trois, ces trois femmes-là sont autodidactes. Elles sont travailleuses et autodidactes. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment au cœur de leur travail, au cœur de leur lutte. Et je crois que c'est ce qui fait la différence avec le socialisme. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas des théoriciennes, stricto sensu.
Oui.
Ce sont des femmes de lutte. Et encore une fois, contrairement au socialisme, il n'y a pas cette visée téléologique. C'est quelque chose qui n'est pas programmatique.
Alors, je rassure les auditeurs, j'ai présenté Lucy Parsons. On présentera aussi Voltairine de Cleyre, pas si connue que cela aujourd'hui, et on reviendra sur Emma Goldman. Mais tout de suite, Irène Pereira, vous êtes une spécialiste du féminisme libertaire, anarchiste. Qu'est-ce que vous pensez donc de l'importance de l'engagement anarchiste pour comprendre la sensibilité générale à la domination et notamment à la domination des femmes?
C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur l'anarchisme, mais j'essaie de ne pas avoir une vision trop hagiographique en fait des figures de l'anarchisme. Alors déjà, bon, c'est vrai que le rapport de l'anarchisme aux femmes, il est un peu compliqué parce qu'au début, Proudhon, on ne peut pas dire que c'est un féministe.
C'est moins compliqué.
Voilà.
Un grand misogyne.
Alors, et en même temps, on trouve, et c'est assez étonnant, chez Proudhon, alors c'est une critique du principe d'autorité plutôt que de domination ou d'oppression, je dirais. Et donc, il énonce hein, dans certains de ses textes, y compris l'autorité du mari sur sa femme, ou du père sur ses enfants. Mais il n'en tire pas des conclusions générales. Et donc, pour moi, effectivement, l'anarchisme, c'est un courant qui va, à l'origine, en tout cas, faire une critique de toutes les formes d'autorité. Et par la suite, effectivement, d'autres figures de l'anarchisme vont être favorables à l'émancipation des femmes. Néanmoins, je fais une distinction entre justement l'émancipation des femmes et le féminisme, parce que au début du XXe siècle, et pas seulement chez les anarchistes, hein, je pense aussi à Alexandra Kollontai ou d'autres figures du socialisme, elles ont une vision, une certaine vision de ce qu'est le féminisme, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme de la première vague. C'est une expression qu'on peut discuter. Mais pour elles, en fait, le féminisme, le mouvement féministe de leur époque, c'est un mouvement bourgeois, c'est un mouvement qui défend le droit de vote, ce qui n'est pas le cas des anarchistes, qui défend la promotion des femmes sur certaines professions, et donc, avocate ou médecin. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, les figures de l'anarchisme, les femmes qui ont été dans le mouvement anarchiste ont été favorables à l'émancipation des femmes, mais sans nécessairement se revendiquer comme féministes. Et l'autre point que je voudrais ajouter, c'est que, en fait, le fait de s'étiqueter anarchiste, certes, sur le principe, vous pouvez être contre toutes les formes d'autorité, mais rien ne vous garantit une lucidité absolue sur tous les points, etc. Donc souvent, de par la grande diversité qu'on a au sein du mouvement anarchiste, on va toujours trouver des figures qui ont été précurseuses. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que tous les anarchistes l'ont été sur tous les points. Et on peut le voir, le féminisme, c'est une illustration quand on prend par exemple le cas de Proudhon.
Alors, je voudrais qu'on revienne un peu dans le détail, parce que c'est croustillant, important. C'est comme ça qu'on réfléchit, hein, le détail des vies aussi et des engagements. Alors, parlons un peu d'Emma Goldman. Emma Goldman, elle est née en 1869 dans une ville de l'actuelle Lituanie, mais qui à l'époque appartenait à l'Empire russe. Elle, dans une famille juive, elle a immigré en 1885 aux États-Unis. Elle se retrouve à New York peu après le massacre de Haymarket Square, dont j'ai parlé du 4 mai 1889, dans les cercles féministes. Elle forme un couple militant et je crois davantage aussi, ou en tout cas sous plusieurs formes, un vrai couple avec Alexandre Berkman, lui-même un juif né à Vilnius en 1870, émigré aux États-Unis. Elle soutient la tentative d'assassinat par Berkman d'un riche industriel américain qui lui vaudra 22 ans de réclusion. Elle fera un peu de prison aussi. Et finalement, tous les deux, en 1919, après la révolution soviétique, sont expulsés des États-Unis vers l'Union soviétique. Ils vont être extrêmement déçue. Et ensuite, elle va pas mal voyager en France. Elle soutiendra les républicains espagnols entre 1936 et 1938 et elle mourra à Toronto en 1940. Emma Goldman, je vous propose tout de suite bien d'entendre sa voix. Là, c'est en 1933. Je crois que c'est la seule archive d'elle que nous ayons. C'est une interview télévisée lors de son retour aux États-Unis.
Que pensez-vous de la Russie, mademoiselle Goldman ?
Je considère la Russie et l'Amérique comme les pays les plus intéressants du monde aujourd'hui.
Et Hitler ?
Je ne connais pas et je ne souhaite pas le connaître.
Quelle est votre opinion sur l'Italie ?
C'est un beau pays en dehors de Mussolini.
Mademoiselle Goldman, si le gouvernement d'ici s'oppose à vos discours anarchistes, les changeriez-vous ou quitteriez-vous le pays ?
Je quitterai le pays plutôt que de nier mes idées. Je préfère m'en tenir à mes armes.
Tancrède Ramonet, elle n'est pas sans humour, Emma Goldman. Monsieur Hitler, je ne souhaite pas vraiment le connaître. dit-elle.
Emma Goldman, c'est un personnage qui est formidable parce que, sur, donc effectivement, vous l'avez dit, hein, elle fuit la misère et les pogroms de plus en plus vers l'Ouest pour arriver aux États-Unis. Et en fait, elle est présente à tous les grands moments de l'histoire sociale. Haym Arquette, c'est ce qu'il a fait. Donc le massacre de Haym Arquette, qu'on commémore aujourd'hui comme le 1er mai, c'est ce qu'il a fait, en quelque sorte, découvrir l'anarchisme, puis adhérer à l'anarchisme. Mm-hmm. Et ensuite, elle va être présente à tous les moments, grands moments révolutionnaires. Elle va aller en Russie après la révolution d'octobre. Elle va soutenir la révolution mexicaine. Elle va soutenir Sacco et Vanzetti. Et elle va même aller jusqu'à en Espagne pendant la révolution libertaire en Catalogne. Donc elle est présente à chaque fois. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que tout au long de sa vie, Emma Goldman a des idées, les défend, mais est capable aussi de se réinterroger et de s'autocritiquer. Elle est une partisane avec Alexander Berkman, disons, de la action violente et de la stratégie de l'attentat. Elle soutient Berkman quand il essaye d'assassiner Frick, un riche industriel. Mais à la fin de sa vie, elle considérera que l'attentat, quand il y a des risques de tuer des innocents, ben en fait, ça ne vaut pas le coup et donc il ne vaut mieux pas recourir à l'attentat. Elle est contre les mobilisations pour la journée de 8 heures parce qu'elle trouve que, disons, on se perd dans cette petite négociation. Et puis, elle va petit à petit, en France, être convaincue par l'anarcho-syndicalisme. Et elle va découvrir aussi les nouvelles formes d'éducation et adhérer à ce que Gaetano Manfredonia appelle le courant éducationniste réalisateur. C'est-à-dire que tout au long de sa vie, elle s'interroge, confronte ses pensées à la réalité et est capable de s'adapter et d'affiner sa pensée. C'est vraiment, c'est un personnage extraordinaire.
C'est la lutte, le courage ininterrompu.
Absolument. Elle a été emprisonnée, elle a été déportée. Il lui est tout arrivé dans sa vie et elle a jamais renié ses idées, comme elle le disait.
Alors, quel est son rapport à la question des femmes, au féminisme? Il se trouve que, bon, nous avons trouvé un extrait, je le dois d'ailleurs à Carla Michel qui m'a aidé à préparer cette émission, un extrait qu'on peut lire dans le recueil Anarchism and Other Essays de 1910 et qui se trouve aujourd'hui dans le recueil chez Payot de la liberté des femmes, où Emma Goldman envoie quelques piques à certaines féministes américaines en suggérant que le puritanisme est un blocage et que le puritanisme, hélas, pourrait bien être quelque chose qui a à voir avec la nature même des femmes. On écoute ce texte et puis on en parle ensemble.
Les femmes, puritaines par nature, sont naturellement strictes et implacables dans leurs efforts pour rendre les autres aussi bons qu'elles pensent qu'ils devraient être. Ainsi, dans l'Idaho, elles ont déchu de leurs droits électoraux leurs sœurs des rues et déclaré toutes les femmes de petite vertu indignes de voter. Cette forme de prostitution légale qu'est le mariage n'étant évidemment pas considérée comme tout aussi obscène. Cela va sans dire, la prostitution illégale et le jeu y ont été interdits. De ce point de vue, les lois doivent suivre cette tendance puritaine de la nature des femmes, parce qu'elles ne font qu'interdire. Et en cela, toutes les lois sont merveilleuses. Elles ne font rien de plus, mais elles finissent par ouvrir toutes les portes de l'enfer. Depuis que la loi les interdit, la prostitution et le jeu n'ont jamais été aussi florissants. Telle est la raison pour laquelle l'attitude bornée et puritaine des femmes à l'égard de la vie fait d'elles un plus grand danger pour la liberté, quand bien même elles accèdent à un pouvoir politique.
Elle cogne, hein, Léa Gauthier, Emma Goldman, elle dit que les femmes, y a tout un tas de choses liées à la sexualité, qu'elles veulent abolir, notamment la prostitution, et qu'au passage, ça ne sert à rien. Les lois, ça ne marche pas très bien sur ces sujets. Mais ce puritanisme des femmes, c'est intéressant quand même ce qu'elle dit là.
Les anarchistes et la loi, effectivement, c'est clair que c'est pas très, très en accord. Là, en janvier dernier, j'ai publié, enfin traduit et préfacé chez Payot, un livre qui s'appelle « Lettre à l'amant, autre texte sur la difficulté d'aimer, de faire l'amour et d'être libre ».
Oui.
Et là, on voit bien les tiraillements aussi d'Emma Goldman. C'est-à-dire qu'elle, vous parliez de Berkman, mais elle a eu un nombre incroyable d'amants. C'était vraiment des passions aussi. L'être à l'amant, là, c'est Reitman, qui était le roi des hobos, qui était un personnage particulièrement atypique, hein, qui était médecin, qui pratiquait les avortements clandestins. Il a énormément contribué à organiser les tournées d'Emma Goldman. Et Emma Goldman a toujours été contre le mouvement des suffragettes, par exemple. C'est-à-dire que pour elle, le but du jeu, c'était pas d'obtenir le droit de vote. Et là, cette phrase, moi, qui me fait rire, si le droit de vote permettait de faire avancer les choses, ils sont interdits depuis longtemps.
Mais j'aurais entendu, c'est un débat très important, intéressant, autour du droit de vote, mais sur les questions sexuelles qui sont au centre des enjeux féministes aujourd'hui. Oui, oui. Je voudrais qu'on en parle, parce que ça nous parle de notre époque aussi, me semble-t-il.
Absolument.
Emma Goldman était pour l'amour libre, une sexualité très libre, vous venez de le dire. Elle avait beaucoup d'amants. Elle détestait que dans les cercles féministes, il y ait des restrictions, une vision de la sexualité masculine excessivement critique, etc. Que diriez-vous ? Elle touche un point, là ? Il y a cette tendance chez les femmes et dans le féminisme ? D'être finalement contre le sexe, quoi, pour le dire.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour Goldman, le fait d'avoir fait des études d'infirmière et de sage-femme à Vienne, et d'avoir suivi les séminaires de Freud, et d'avoir compris que le sexe était central dans l'équilibre psychologique des individus, et c'est hyper novateur à cette époque quand même de se faire le porte-voix de Freud. C'est quelque chose qu'elle remet au centre, et c'est effectivement un point de critique par rapport au puritanisme américain, qui quand même est super costaud, et il a été question d'intersectionnalité. C'est aussi à partir de là que l'anarchiste permet de tout repenser. Penser les corps, leur liberté, c'est penser le sexe, c'est penser la prostitution, qu'il ne suffit pas d'abolir, parce que l'abolition de la prostitution, finalement, permet d'augmenter la prostitution, paradoxalement, comme la prohibition, en fait, a augmenté la consommation d'alcool. Et donc, c'est par une libération des mœurs.
C'est ce qu'elle dit, en tout cas.
C'est ce qu'elle dit, en tout cas.
Et pour ce faire, elle
transclasse.
Elle critique le puritanisme américain et féminin, souligne-t-elle. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Irène Pereira, de cette critique d'Emma Goldman ?
Alors, c'est un texte que j'ai étudié, effectivement, dans l'ouvrage Apparaître. Déjà, je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que... À l'époque, la question de la sexualité, de l'amour libre, la critique du mariage est assez portée, le contrôle des naissances est une thématique assez portée par les anarchistes et plutôt absente dans les mouvements féministes. Donc lorsque vous dites « ce sont des thématiques actuelles de mouvements féministes », c'est pas forcément le cas au début du XXe siècle. Et il y a effectivement des points de tension entre l'anarchisme et le féminisme, en tout cas tel qu'il se présente au début du XXe siècle. On l'a vu sur la question des lois, la question du suffrage. Et donc on retrouve effectivement un certain nombre de débats, mais qui se reconfigurent selon les époques, puisque dans les années 70, par exemple, les féministes vont s'intéresser à la question de la sexualité. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas effectivement transposer exactement ces débats de la même manière aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le mouvement MeToo, je pense que ce qu'il dit, c'est que la révolution sexuelle telle qu'elle a été pensée dans les années 70 a été pensée du point de vue des hommes plutôt que du point de vue des femmes. Et... voilà. Quant à la manière dont Emma Goldman pense la révolution sexuelle, est-ce que effectivement la manière dont elle le présente est forcément toujours la bonne manière de présenter les choses ? On peut aussi le discuter. Par exemple, lorsqu'elle parle de les femmes sont puritaines par nature, ça renvoie quand même à toute une question qui a été critiquée par le féminisme, à savoir l'essentialisme. En particulier par Simone de Beauvoir. Donc, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est effectivement de voir comment des débats sont présents, des thématiques surtout sont présentes à différentes époques, mais comment elles se reconfigurent selon les époques Et comment, bon, ces féministes, ces anarchistes qui sont pour l'émancipation des femmes peuvent avoir des idées parfois très intéressantes et peuvent parfois aussi avoir des arguments un peu discutables. Et c'est ça qui me semble avoir un intérêt.
Est-ce que vous pensez qu'elle le dit vraiment au premier degré, la tendance puritaine des femmes qui est dans leur nature, ou bien elle dit la manière dont les hommes voient les femmes ? C'est-à-dire comme des personnes puritaines. Elle est sérieuse, là ? Elle pense que toutes les femmes sont puritaines ?
Après, peut-être qu'on peut discuter, hein, mais j'ai l'impression quand même, y compris dans d'autres textes, hein, que c'est un point qui revient chez elle. Par contre, il y a d'autres positions voilà, qui sont aussi intéressantes. Hein, ce qu'elle dit sur la prostitution, ça renvoie à beaucoup. Le mouvement féministe aujourd'hui est clivé sur la question de la prostitution.
Et, tout le monde n'est pas abolitionniste.
Voilà, et elle a une position où elle défend le droit des prostituées. Et aussi, il y a un argument qui est très intéressant, qui est beaucoup porté par les anarchistes à cette époque-là, c'est que le mariage est une forme de prostitution.
Ça, c'est on ferait mieux de s'attaquer à ça, peut-être, que toute forme de prostitution. Elle est à Gauthier.
Oui, moi, je pense que il y a une part d'ironie. Il y a une chose sur laquelle elle met énormément l'accent dans ses textes, c'est s'émanciper des traditions et s'émanciper des habitus. Or, je pense que quand elle parle de ces femmes puritaines qui vont à l'encontre, en fait, de l'émancipation des femmes, elle parle de ces femmes puritaines qui n'arrivent pas, justement, à rompre avec les traditions dont elles sont issues. Et elle-même, en tant que juive immigrée, vivait dans un carcan moral extrêmement serré. Mmh. Elle, quand elle est partie à 16 ans, elle a menacé son père de se jeter dans la Neva parce qu'il voulait l'épouser.
Elle a aussi dit que si son père avait été si violent, parce que je crois que c'était un homme très brutal, c'est parce qu'il était frustré sexuellement et qu'il n'y avait pas de sexualité entre ses parents. Donc, c'est compliqué, hein. Voilà, elle l'a dit après. Ouais. Bon, je vous propose qu'on passe à une autre figure. D'abord, je précise à nos auditeurs que nous parlons de l'anarchisme aujourd'hui, vendredi. Et lundi, c'est un diptyque pour essayer de comprendre le renouveau actuel de l'intérêt pour l'anarchisme. Et ce matin, nous demandons si l'anarchisme n'a pas été pionnier dans la lutte pour un meilleur traitement des femmes, mais aussi des Noirs, mais encore de la nature et de l'environnement. Et peut-être est-ce pour cela qu'il attire beaucoup aujourd'hui. Je suis en compagnie d'Irène Peyral et à Gauthier et Tancrède Ramonet. Tancrède Ramonet, vous évoquiez tout à l'heure Voltairine de Clare. Alors, c'était une amie d'Emma Goldman. Elle est née en 1866 aux États-Unis, mais son père était d'origine française, d'où est son prénom et son nom, dans le Michigan. Et elle s'est très vite engagée pour améliorer la condition des Noirs américains. Elle était abolitionniste donc en matière de non seulement d'esclavage, mais elle pensait qu'il y avait une question noire fondamentale à travailler en vue d'une émancipation. Et en même temps, elle était très féministe. Elle a dénoncé l'esclavage sexuel des femmes. Elle a tout pour aujourd'hui arriver au premier plan des réflexions sur l'anarchisme.
Absolument. Alors, on la connaît un petit peu moins, nous, en Europe. Hein. Elle est très connue aux États-Unis d'Amérique, Voltairine de Clare. C'est vraiment la double de Emma Goldman. Elles sont nées à quelques années de différence. Elles traversent, elles passent la fin du 19e et du 20e siècle. Et si Emma Goldman est appelée la femme la plus dangereuse d'Amérique, Emma Goldman appelle Voltairine de Clare la femme la plus douée d'Amérique parce que elle écrit de la poésie. Elle est capable effectivement de tout penser. C'est une aussi une oratrice formidable, mais disons que elle souffre de problèmes de santé, elle est un petit peu plus fragile qu'Emma Goldman, et donc Emma Goldman raconte que quand après avoir fait un grand discours, elle doit garder le lit pendant quelques jours parce que ça lui demande trop d'efforts. Mais voilà, et donc, mais sans doute Irène ou Léa en parleront mieux que moi, elles ont aussi des points de différence, des points de désaccord qui sont intéressants, dont elles discutent tout au long de leur vie, et parfois finissent par converger sur certains points.
Alors, Voltairine de Clare propose des analyses qui me semblent très actuelles, notamment dans un texte, une conférence intitulée « L'esclavage sexuel » de 1895, qu'on peut lire en français grâce à vous, Léa Gauthier, dans votre recueil chez Payot. « Y a-t-il plus fier et libre que nous ?» était le texte global dans lequel on peut lire cet extrait. Eh bien, Voltairine de Cleyre évoque le fait que les femmes dominées souvent ne protestent pas. Et en réalité, elles s'étonnent qu'on s'en étonne. C'est un problème dont on parle souvent aujourd'hui. Je vous propose d'écouter cette analyse de Voltairine de Cleyre.
Il m'a souvent été demandé par des femmes dont les maîtres étaient décents et qui n'avaient donc aucune idée des atrocités endurées par leurs sœurs moins chanceuses, pourquoi ces épouses opprimées ne quittent-elles donc pas le foyer? Mais pourquoi ne courons-nous pas lorsque nos pieds sont enchaînés? Pourquoi ne crions-nous pas lorsque nous sommes bâillonnés? Pourquoi ne levons-nous pas nos bras au-dessus de nos têtes lorsqu'ils sont rivés le long de notre corps? Pourquoi ne dépensons-nous pas des milliers de dollars lorsque nous n'avons pas un sou en poche? Pourquoi n'allons-nous pas à la mer ou à la montagne lorsque nous brûlons dans la chaleur des villes? S'il est une chose qui m'irrite particulièrement dans cette société éculée, c'est cette incroyable stupidité avec laquelle le vrai flegme de la bêtise demande « Pourquoi ces épouses opprimées ne quittent-elles donc pas le foyer ? » Pourriez-vous me dire alors où iraient ces femmes et ce qu'elles feraient ? Sur Terre, il n'y a aucun refuge pour le sexe mis en esclavage. C'est à l'endroit où nous sommes, ici et maintenant, que nous devons creuser nos tranchées, puis gagner ou mourir.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Pourquoi les femmes mettent-elles parfois 20 ou 30 ans pour dénoncer un viol et se mettent telle à parler au moment où l'acte est prescrit? C'est une question qu'on entend tout le temps dans le débat actuel. Et bien, Voltairine de Cleyre, en 1895, s'étonne qu'on s'en étonne. Léa Gauthier, pouvez-vous commenter cette analyse assez fine, me semble-t-il?
Oui, je crois que Voltairine de Cleyre a une pensée très très fine qui se réajuste tout le temps. Tout à l'heure, vous parliez de l'esclavagisme. Elle est issue d'une famille anti-esclavagiste. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Son grand-père a aidé à faire passer beaucoup d'esclaves au Canada. Et elle est vraiment empreinte de cette histoire-là, de cette tradition-là. Et en fait, il y a une clandestinité de la souffrance féminine. Il faut aussi le recontextualiser dans le moment de l'époque. Souffrir, et comment le dire? Comment arriver à en parler? Comment la notion de sororité qui aujourd'hui est centrale, hein, la question de les femmes mises au foyer, les femmes de quelque classe que ce soit, sont quand même très très séparées en fait du champ de la société pour arriver à s'unir. Et ce qu'elle dit, il nous faut creuser nos tranchées, nous devons nous y mettre ensemble, creuser nos tranchées ensemble. Et c'est que le ensemble en fait qui permettrait à rendre absolument obsolète toutes ces questions-là qu'elle pose comme des incohérences absolues dont elle s'étonne. Et je crois que c'est vraiment la connivence, en fait, ou plutôt la prise de conscience des divers endroits de domination qui lui permet de dire ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, Irène Pereira, ce Allô silence des femmes longtemps ou qui ne disent pas leur souffrance tout de suite? Qu'est-ce que vous en pensez comme question dans l'histoire du féminisme? Et est-ce que Voltairine de Cleyre avait une pensée originale à cet égard?
Ce que j'ai trouvé intéressant chez Voltairine de Cleyre, déjà souvent on oppose, hein, même si c'est un peu caricatural, Voltairine de Cleyre qui serait une individualiste, hein, plutôt se rattachant, même si par la suite elle a un peu abandonné ce qualificatif, et elle-même à un moment présente son opposition à Emma Goldman dans ces termes-là, c'est-à-dire elle plutôt individualiste et Emma Goldman plutôt communiste. Et c'est vrai que lorsqu'on lit le texte d'Emma Goldman, on est plus sur effectivement une critique de l'absence de liberté sexuelle, alors que chez Voltairine de Clare, paradoxalement, il y a un intérêt plus grand aux conditions matérielles des femmes. Et c'est vrai que dans certaines thématiques qui sont assez peut-être moins présente au début du XXe siècle, elle est plutôt en pointe hein, lorsque elle dit pourquoi ces épouses opprimées ne quittent-elles pas donc pas leur foyer. Ça, c'est quand même une interrogation qui a été beaucoup plus tôt portée dans les années 70, dans la deuxième partie des années 70, les années 80, la question des violences faites aux femmes, par exemple le fait qu'une femme lorsqu'elle quittait le foyer conjugal, était accusée d'abandon du foyer conjugal. Il y a dû y avoir toute une lutte pour faire en sorte que ce ne soit plus le cas. Donc, de ce point de vue-là, dans les textes que j'ai lus de Voltairine de Clare, elle m'a paru plus en phase avec peut-être notre sensibilité féministe
actuelle. D'aujourd'hui, oui.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Pourquoi y a-t-il en ce moment un renouveau de l'intérêt pour l'anarchisme ? Nous venons d'évoquer les thématiques féministes qui parcourent l'histoire de l'anarchisme, qui traversent cette histoire. Je voudrais, pour finir, qu'on parle d'une autre sensibilité qui est présente dans l'histoire de l'anarchisme, c'est la sensibilité à la domination de la nature. Peut-être d'ailleurs est-ce ce thème qui explique notre intérêt aujourd'hui pour cette tradition, qui permet aussi de connaître mieux certains personnages, comme Murray Bookchin, né en 1921, mort en 2006, américain, philosophe, Tancrède Ramonet. Pourquoi Murray Bookchin? Murray Bookchin, j'essaye de Bookchin. Le dire. Bookchin, très bien. Pourquoi est-il important?
Alors, juste, je refais une petite... j'élargis un petit peu. La réflexion autour de la question écologique et des menaces faites à la nature par le système de production capitaliste sont antérieures à Murray Bookchin. On les retrouve déjà chez les frères Élie et Élisée Reclus, et particulièrement chez Élisée Reclus, qui est une très grande figure, aujourd'hui oubliée, mais qui, à l'époque, fait partie des 3-4 personnages français qui rayonnent à l'international. Il a écrit une géographie mondiale à la fin du 19e siècle qui le fait connaître dans le monde entier, à l'égal pratiquement d'Hugo. C'est un immense esprit. Et il est un des premiers à intégrer le fait qu'il faut défendre la nature. Il est lui-même végétarien formule une critique anti-spéciste contre l'exploitation animale. Et Murray Bookchin s'inscrit dans cette tradition de l'anarchisme, de l'écologisme de l'anarchisme. Alors pourquoi il est très important, Murray Bookchin ? Murray Bookchin, il vient d'une tradition à la base qui est marxiste. Au lendemain de la deuxième, exactement trotskiste, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, il prend au sérieux une phrase qu'avait dit Trotsky, c'est que s'il n'y avait pas de révolution mondiale au lendemain de la deuxième guerre mondiale, il fallait revoir totalement le logiciel marxiste. Mm-hmm. Et Murray Bookchin prend ça au sérieux et décide au lendemain de la deuxième guerre mondiale de revoir l'ensemble de son logiciel. Et découvre à ce moment-là l'anarchisme et commence à mettre ses pas dans les pas de ses prédécesseurs anarchistes, Bakounine, Kropotkine et aussi Élisée Reclus. Et il se rend compte dans les années 50 que les ouvriers ont envie d'appartenir désormais à la classe moyenne et que donc il n'est pas sûr que la révolution pourra être une révolution ouvrière. Et il voit dans la menace qui est faite sur l'environnement et sur le cadre de vie un argument très intéressant pour pouvoir faire avancer l'idée révolutionnaire. Et donc, à la fin des années 50, il écrit un livre qui s'appelle Our Synthetic Environment, qui est un livre qui montre comment le modèle de production capitaliste est en train de corrompre nos cadres de vie. On ingurgite des substances en mangeant des viandes, des antibiotiques qui nous donnent des cancers, qu'on respire des fumées qui abîment notre santé, et que donc il faut maintenant qu'on préserve l'environnement. Et il met l'écologie pour la première fois au cœur d'une critique politique avec ce qu'il a appelé l'écologie sociale, qu'on appelle aujourd'hui l'écologie politique.
Alors Murray Bookchin, vous m'expliquerez les enjeux ensuite, s'il vous plaît, Tancred Ramonet exactement, mais met au cœur de sa pensée, me semble-t-il, l'idée, et c'est peut-être lié à son anarchisme, qu'il y a une culture de toutes les sortes de dominés à développer. Une culture, au fond, ce qu'on appelait avant parfois une conscience de classe, mais c'est pas forcément seulement la classe, le besoin d'une certaine vision du monde, de ce que c'est que la domination. Et c'est cette culture, parfois il parle même de Bewegung, le mot allemand, une sorte de vision qui permet de préparer l'émancipation. Je vous propose de l'écouter.
The feminists are trying to recover their own culture and develop their own culture.
Les féministes ont essayé de développer leur propre culture, tout comme les militants, pour la paix, une culture en opposition à la guerre, basée sur une vision différente des gens, une vue différente de l'autre et des expériences alternatives, pas comme quelque chose qui doit être contrôlé ou manipulé. L'antimilitarisme et le pacifisme aujourd'hui sont plus qu'un mouvement. Ils forment une culture. C'est une culture sur comment interagir avec les animaux, sur comment on interagit avec les autres êtres humains. Elle est basée sur la non-violence, la raison, la sympathie, l'empathie, l'amour. Et ce mot ne doit pas être rejeté, même si on l'utilise cyniquement pour dire « j'aime ma Ford ou ma Subaru ». Nous parlons de ce que les Allemands appellent une « Bewegung », une culture entière, pas juste une cause. Et je voudrais approfondir cela dans le peu de temps qu'il me reste. Il y a derrière cela une sorte d'évidence que si vous êtes pacifiste, vous ne serez pas brutal avec les animaux, au pire. Et qu'au mieux, eh bien vous ne les mangerez pas. Ce sont des attitudes. Vous pouvez les accepter ou les rejeter, mais gardez en tête la dimension culturelle qui repose derrière ces mouvements. Ces mouvements ne sont pas que contre la guerre, mais contre une mentalité de guerre patriarcale dans ses origines. Une mentalité de guerrier. Voilà ce dont ils parlent vraiment dans leur désir de tout changer. Il en va de même avec le mouvement dit environnemental, que je préfère appeler écologiste. Il est faux de dire que la nature est pingre, cruelle, muette, brutale. C'est un imaginaire du 19e siècle, quand la nature devait être contrôlée parce qu'on était dominé par elle, et que si vous ne la dominiez pas, elle vous dominerait.
C'était Murray Bookchin en mars 1985 dans une conférence. Est-ce que c'est l'anarchisme, Léa Gauthier, qui c'est la culture anarchiste qui permet de développer cette culture dont il parle, que toutes les formes de domination doivent permettre de ressentir la culture de la domination qui permet l'émancipation?
Alors là, c'est une pensée qui effectivement est peut-être beaucoup plus contemporaine, mais je crois qu'il est super important de rappeler quand même que Kropotkine a écrit L'Entraide, et L'Entraide, c'est un texte qui s'appuie sur l'observation des animaux, des végétaux, comment dans la nature ils s'entraident, en opposition avec Darwin. C'est pas le plus fort qui gagne, et c'est à partir de là qu'il arrive à dégager un modèle social anarchiste.
Donc Kropotkine, anarchiste russe, qui a beaucoup voyagé, qui est mort en 1921, quelques semaines avant le massacre des marins de Kronstadt par Lénine. Mm-hmm. Et donc c'est sûr qu'il faut rendre cet hommage à Kropotkine, comme à Élisée Reclus, vous le disiez très bien, Tancrède Ramonet.
Ils sont les deux d'ailleurs géographes.
Mais moi, géographes. Pas... Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est l'apport théorique. Parce qu'on est quand même dans une émission avec philosophie, on essaye de saisir les concepts. Quels sont les grands concepts qu'a inventé Murray Bookchin?
Alors Murray Bookchin, il reformule cette idée-là, mais c'est le premier à la formuler aussi clairement. Que La spécificité de l'anarchisme, c'est d'être une lutte contre toutes les formes de domination. Avant, on ne formule pas les choses de cette manière-là. C'est une lutte contre l'autorité, c'est une lutte contre le pouvoir, contre l'État. Murray Bookchin utilise le terme de domination et il explique que la différence, disons, entre le socialisme, le communisme, qui met au cœur la lutte des classes et l'exploitation, la seule exploitation économique, l'anarchisme est meilleur, est plus affûté, plus utile, puisqu'il met en lumière toutes les formes de domination et il les nomme, Murray Bookchin. La domination à l'intérieur de la famille, la domination entre les hommes et les femmes, la domination entre les noirs, enfin entre les blancs, des blancs sur les noirs, les dominations des pays du Nord sur les pays du Sud, la domination des hommes sur la nature. Et toutes ces dominations, il les montre bien, s'entretiennent et se superposent et doivent être combattues à la fois chacune et en même temps.
Vous êtes convaincu, parce que franchement, pardon, mais je trouve que c'est toujours plus intéressant de dire que les choses sont différentes que de dire qu'elles sont les mêmes. Et cette tendance à tout ramener à un seul modèle de domination, la domination est plus intelligente que ça. Elle est multiforme, non? Elle se réinvente, c'est l'école de Francfort l'a très bien montré. Vous trouvez ça bien, cette globalisation, cette totalisation autour du concept de domination?
Alors, ben, vous savez, vous connaissez la grande phrase, ça c'est pas celle d'un anarchisme, mais que, par exemple la question de la lutte contre la catastrophe écologique sans la lutte des classes, ça s'appelle du jardinage. Donc effectivement, les dominations, on le voit de plus en plus, et c'est l'apport aussi, disons, de la pensée intersectionnelle des années 70, qui aujourd'hui est quand même largement approuvée, montre bien qu'on a des superpositions de domination et que donc on a des gens qui sont les opprimés des opprimés des opprimés et des gens qui sont à la pointe ou au sommet de la pyramide.
D'accord, donc au fond, l'intersectionnalité, les superpositions de domination, c'est peut-être comme ça qu'il faut parler de ce concept de domination. Ce n'est pas l'idée qu'il y a un grand système, si vous pensez.
Non, Bookchin est très précis. Non. C'est bien cette idée qu'il y a plusieurs formes de domination et que ces dominations s'entretiennent et se superposent. Mais c'est pas quelqu'un en haut qui décide de tout dominer, mais c'est plutôt des phénomènes de système qu'il décrit. Et d'ailleurs, il apporte une réponse. C'est un des derniers anarchistes à avoir proposé vraiment un modèle. Il apporte une réponse qui s'appelle le municipalisme libertaire, c'est-à-dire son idée qu'il faut essayer de refaire la commune et la démocratie directe à une échelle locale toute petite. Et ça va avoir une influence énorme dans les années 70 et on va même avoir une influence aujourd'hui de Murray Bookchin très concrète, par exemple dans la révolution qui a lieu au Rojava.
Je vous laisse le dernier mot, Irène Pereira, sur cette conceptualisation de la domination.
En ce qui concerne Murray Bookchin, je pense qu'il faut le replacer lui aussi dans un contexte qui est celui de la nouvelle gauche aux États-Unis. Donc, à un moment où il y a plusieurs intellectuels, moi je cite par exemple dans mon ouvrage Marion Iris Young, qui théorise par exemple la notion d'oppression à côté de celle de domination et effectivement d'oppression qui sont multiples. En se référant justement, enfin, elle est plus tardive, mais elle se réfère justement à cet héritage de la nouvelle gauche. Donc, pour moi, l'apport de Murray Bookchin, il se situe à deux niveaux. D'une part, c'est l'écologie sociale, c'est-à-dire ce croisement entre l'écologie et le social. C'est-à-dire, si je reprends son apport tel que aujourd'hui, pourquoi on reparle de cet auteur-là? Donc, je pense que les deux éléments qui sont vraiment mis en avant, c'est le fait qu'il croise l'écologique et le social, ce qui est à mon avis un grand enjeu, parce qu'on a beaucoup de discours écologiques qui distinguent complètement, qui ne prennent pas en compte le social, les inégalités socio-environnementales. Et puis l'autre point, c'est ce que vient de dire Tancred Ramonet, c'est le municipalisme libertaire qui est une autre manière de penser l'organisation démocratique. Get up, stand up for your right.
Et Bob Marley, bien sûr, pour finir cette émission, Get Up, Stand Up, cette chanson de 1973. Merci beaucoup à tous les trois, Tancrède, Ramonet, Irène Pereira, Léa Gauthier. Nous avons parlé du féminisme, mais aussi du rapport à la nature, mais aussi de la question des Noirs américains, toutes ces questions que la sensibilité anarchiste permet d'aborder, et c'est peut-être une raison de son succès. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il nous parle du plaisir. Voici le pourquoi du comment.
Comment justifier une politique du plaisir? Le rôle de la politique, de son intrusion, de son intervention au cœur de la vie humaine se situe quelque part entre le pur besoin d'un côté et à l'autre extrême, pourrait-on dire, avec un risque que beaucoup de philosophes ont défini depuis, disons, au moins l'époque de la Révolution française, à l'autre extrême du besoin. Non pas le plaisir, mais le bonheur. Il y a alors deux risques au fond dans la politique et dans la façon dont elle répond aux finalités intimes de la vie humaine, des vivants humains, des subjectivités humaines en tant qu'êtres vivants. D'un côté, la politique, et c'est bien le minimum au sens strict, d'un côté, la politique ne sera juste que si elle répond aux besoins minimaux des êtres humains, ces besoins qui se définissent, bien entendu, individuellement. Le besoin de nourrir, de se nourrir, de survivre, de ne pas mourir de tel ou tel manque, mais aussi le besoin collectif de protéger une communauté humaine contre des dangers qui peuvent être, par exemple, la guerre ou la catastrophe ou la pénurie économique. Dès lors, le besoin, la satisfaction des besoins est le minimum vital de la politique. Et une philosophe comme Simone Weil en avait fait au début de l'enracinement une généralisation. Le rôle de la justice, de la politique, c'est de répondre non seulement aux besoins du corps, mais aux besoins de l'âme humaine, à ce minimum, à ce sans quoi l'être humain ne peut pas vivre. Et l'être humain a besoin aussi de justice, de liberté et aussi d'égalité et d'ordre social, comme elle le dit, d'une articulation de tous ces besoins contradictoire. Répondre aux besoins, ce serait déjà très bien, mais c'est un minimum qui n'est jamais peut-être entièrement satisfaisant. À l'autre extrême, il y aurait alors une politique qui nous dit « je ne vais pas seulement répondre à vos besoins, je vais vous apporter le bien suprême, je vais vous apporter le bonheur absolu ». Et ces politiques du bonheur ont été justement critiquées dès le XVIIIe siècle par des philosophes critiques qui demandaient à la politique de nous apporter, comme disait Benjamin Constant de manière fameuse, non pas le bonheur, mais la justice. Occupez-vous de la justice, je me chargerai de mon bonheur. Et de fait, le bonheur, comme il n'est pas simplement la satisfaction d'un besoin minimal, mais la réponse à une conception du bien humain dans son ensemble, une conception qui varie entre les êtres humains. Il y a des gens pour qui le bonheur comporte la croyance religieuse, des gens qui n'en ont pas besoin, il y a des gens qui vont régler leur vie de telle façon individuelle opposée à une autre. Le bonheur, les conceptions du bien sont variables, alors que les résistances au mal sont communes. Et donc on ne peut pas fournir le bonheur sans de l'injustice, sans imposer une conception du bonheur aux autres. La politique se situe donc entre le besoin et le bonheur. Mais alors, quelle est la place du plaisir? Eh bien, la place du plaisir, c'est peut-être de dire que, en satisfaisant les besoins minimaux, ce qui est bien le minimum d'une politique juste, il faut aussi laisser une place, laisser surgir en quelque sorte, laisser naître au moins minimalement chez tous les sujets la capacité à un peu plus que le besoin, la capacité à se procurer des plaisirs singuliers, la découverte de la diversité du monde, non pas seulement le fait de ne pas mourir de faim, mais la capacité de découvrir la diversité des goûts, des œuvres, de la culture, des relations humaines, la capacité à construire un cadre de vie où l'on, non seulement on répond aux besoins les plus urgents, mais on découvre les plaisirs humains dans leur diversité, sans tomber dans la fuite en avant du quantitatif et de l'accumulation des plaisirs, sans tomber dans l'imposition d'un bonheur réduit à la quantité de plaisir, mais en permettant à tous quelque chose de plus que le besoin pour que chacun puisse accéder à sa conception du bonheur.
Merci Frédéric Worms, merci Riyad Kera, notre réalisateur, et à la technique Florent Bujon. Merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Felpin, Carla Michel, Axel Dubois, Lila Bozès, Shaima Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.
Se préparer au grand oral du bac, prendre la parole en public, défendre ses arguments lors d'un débat, déclarer sa flamme.
bien parler et savoir se faire entendre, ça s'apprend.
J'essaye de transmettre par des livres ou par des enseignements ce que j'ai appris en matière de prise de parole en public.
Ma parole, entraînez-vous à l'art de bien parler avec Bertrand Perrier, réalisé par François Test sur franceculture.fr et l'application Radio France.